Bien, bonsoir, bienvenue aux premières rencontres de la Bulac autour du livre de cette année 2013 qui porte sur les collections de la réserve. Donc je présente très brièvement les intervenants et collègues qui interviennent. Donc Virginie Rose va commencer, va introduire cette rencontre, puis Séverine, Virginie pardon, est responsable du pôle conservation de la Bulac. Ensuite Séverine Keun, qui est responsable de l'atelier de conservation, nous parlera. Et ensuite Francis Richard, qui est donc responsable de la réserve et directeur scientifique de la Bulac, terminera cette rencontre. Ensuite, il y aura une séance de questions. Et voilà, je passe tout de suite la parole à Virginie, qui va donc résumer brièvement et introduire cette rencontre. Merci à tous.
Merci. Bonsoir à tous. Donc, en fait, on a des micros, mais je vois qu'il n'y en aurait presque pas besoin. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous rapprocher, vous êtes les bienvenus. C'est assez cosy comme ambiance. Donc, comme Olivier vous l'a dit, on va aborder sous plusieurs angles donc, cet aspect de la réserve de la Bulac, en vous montrant ses spécificités. Donc, en fait, moi, je vais commencer par quelque chose d'assez général, une présentation. On va dire assez large pour pas vous truffer la tête de chiffres, mais simplement pour vous appâter un peu pour ce qui va être développé par la suite, notamment par Séverine. Donc autour de tout ce qui est activité de conservation sur les ouvrages de la Bulac. Et on terminera par Francis, qui lui s'intéressera plus précisément au fonds à rames de la Bulac, qui est un fonds très riche. Et à partir de cet exemple-là, on pourra aborder des thèmes, disons, qu'on retrouve dans d'autres collections présentes à la Bulac, les collections les plus riches, les plus précieuses. Donc, en fait, peut-être pour commencer, ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur le terme de Bulac, puisque pour, je pense, la plupart d'entre vous, vous savez que la Bulac est une émanation de ce qui était autrefois la Bulot. Et donc, si on développe ce terme de Bulac, donc les bibliothèques universitaires des langues et civilisations, en fait, ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans ce nouvel acronyme, c'est justement civilisation, qui n'apparaissait pas auparavant, puisque ça permet de comprendre qu'on est bien au-delà d'un simple aspect, par exemple, littéraire des collections, puisque les civilisations, c'est aussi l'histoire, pardon, l'ethnographie, etc. Donc on a tout ce champ documentaire qui commence déjà à être présent dans le terme de Bulac. Alors, bien sûr, il y a ce terme de langue qui remplace ce qui était dans Bulot, langues orientales. Alors, langues orientales, évidemment, on avait cette référence à l'Orient, que ce soit le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, je vous laisse imaginer. Mais en fait, le terme d'Orient avait été choisi à un moment où on savait ce que recouvrait l'Orient dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il débordait justement cette géographie de l'Orient pour être aussi les langues, par exemple, de l'Océanie, les langues des civilisations amérindiennes, les langues de l'Europe balkanique, par exemple, etc. Enfin, tout le champ, en fait, que recouvre la Bulac à présent, et donc qui a disparu de ce simple petit raccourci langues orientales pour aller vers langues au sens plus large, et donc finalement mieux rendre compte de nos fonds. Évidemment, je ne vous ai pas cité toutes les aires géographiques présentes à la Bulac. Le but de cet exposé, de toute façon, ce n'est pas d'être exhaustif. Déjà, je n'aurai pas le temps de le faire dans le temps qui nous est imparti. Et d'autre part, c'est aussi un peu un appel du pied pour vous, pour découvrir peut-être de plus près les collections dont nous disposons ici. En revanche, ce sur quoi on peut revenir rapidement, c'est donc ces fameuses langues. Alors, je ne vais pas vous faire une liste, mais simplement pour les langues les plus représentées à la Bulac, en fait, on peut en compter une centaine, même s'il y en a beaucoup d'autres, mais pour des fonds qui seront avec beaucoup moins d'exemplaires en réalité. Alors, je suis désolée, j'ai un peu la voix cassée. J'espère que vous m'entendez suffisamment quand même. Donc, pour en revenir plus précisément au fond de la réserve de la Bulac, puis c'est ce qui nous réunit ce soir, en fait, en cherchant un petit peu dans les archives, j'ai découvert que l'espace réserve dédié en tant que tel, c'est-à-dire une pièce dans laquelle sont conservés les ouvrages les plus rares, les plus précieux, les plus notables de la bibliothèque, donc cette pièce a vu le jour en 1994, donc sur l'ancien site de la rue de Lille, donc de la Bulot. Donc c'était une pièce, donc pour certains d'entre vous, vous la connaissiez, qui regroupait de façon plus ou moins organisée ces fameuses collections qui, à l'époque, n'étaient pas aussi nombreuses que ce qu'elles sont à présent, puisqu'on pouvait compter environ 5 000, 6 000 documents présents dans cette réserve. Donc justement, avec l'objectif de l'ouverture de la Bulac sur ce site-là, et donc beaucoup plus d'espace dédié aux collections, et surtout des collections conservées dans de meilleures conditions, donc il a été décidé de faire une sélection parmi les fonds déjà présents dans la bibliothèque, les ouvrages du Fonds Généraux, de faire une sélection parmi ces fonds pour enrichir la réserve telle qu'on la connaît actuellement. Donc cette sélection s'est appuyée sur divers critères. Alors peut-être si vous avez des questions à la fin, Francis Richard pourra vous répondre plus précisément sur les choix qui ont été opérés. Donc en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, le chiffre a bien augmenté puisqu'on a environ 13 000 documents dans la réserve. Enfin disons entre 12 et 13 000 documents. Donc là encore, je ne vais pas vous faire une liste, vous l'imaginez, précise de tous les documents qui sont conservés. Simplement, on peut recenser dans ces collections des grammaires, des recueils de poésie, des ouvrages historiques, théologiques ou moraux, des traités de médecine, de magie ou d'alchimie, des récits de voyage, des pièces diplomatiques, etc., etc. Évidemment, et comme vous le savez très probablement, on dispose aussi de manuscrits. Donc simplement, là, pour vous donner quelques chiffres pour un peu situer les choses, on peut dénombrer actuellement 640 manuscrits arabes, mais en réalité, ça représente beaucoup plus de masse, puisqu'il y a à peu près 800 fragments par ailleurs. On peut recenser également 205 manuscrits turcs, 136 manuscrits persans, 50 manuscrits hébreux. Alors, il y a d'autres manuscrits, mais dans des quantités moindres, donc je ne vous en ferai pas la liste ici. On peut aussi, je l'ai évoqué précédemment, se remémorer le fait qu'on a en fait une centaine de récits de voyage. Donc c'est une thématique qui est assez richement représentée dans la bibliothèque. Et alors quand je vous dis une centaine, en fait c'est plusieurs centaines. Et également un nombre, alors qui est encore à déterminer, de cartes, mais assurément une très grosse centaine de cartes, qui sont soit des cartes en tant que telles, c'est-à-dire directement en rouleau ou à plat, ou des cartes qui sont comprises dans des documents, qui sont insérées dans des documents. On peut recenser également une centaine d'incunables, et à titre d'exemple, parmi tous les fonds que nous possédons, on peut citer par exemple le fonds japonais, qui est un fonds assez spécifique, enfin qui n'a pas d'égal en France, donc qui comporte environ 1000 titres, ce qui représente en réalité 11 000 à peu près fascicules, puisque les fascicules en fait sont regroupés dans des étuis. Et donc, enfin, je ne sais pas si on a des images plus loin, mais en tout cas, c'est un fonds qui est particulièrement remarquable. Ce qu'on peut citer également, puisque les ouvrages actuellement à la réserve sont donc bien les ouvrages de la Bulot, qui ont été déménagés ici, ce que je vais évoquer par la suite, mais la réserve a également été enrichie par des ouvrages de l'un de nos partenaires, l'Institut d'études iraniennes, qui donc nous a versé ces documents. Et pour la réserve, ça concerne en fait 200 volumes et 8 manuscrits, qui donc sont également disponibles. Alors, outre la masse de documents et leur variété en fonction des provenances, par exemple, ce qui est remarquable, alors surtout d'un point de vue conservation, c'est justement les provenances. Puisque suivant les pays où les ouvrages ont été fabriqués, évidemment, on n'a pas du tout le même type de matériaux. Donc là, on a une grande variété en fait à disposition pour études. Donc on peut citer, enfin là, ce n'est pas vraiment les matériaux, mais Séverine reviendra davantage là-dessus. L'intérêt donc de toutes ces collections, c'est par exemple d'avoir des ouvrages à Rabat. Donc je pense que ça sera évoqué par la suite par Francis et vous verrez également quelques photos. On a beaucoup, par exemple, de contreplats décorés aussi. On a des reliures en tissu. On a même une reliure en poil d'animal. On a également des gravures sur bois, enfin, entre autres merveilles. Donc, en fait, ce préambule, j'allais dire, c'est un peu pour vous appâter et pour aussi un peu préparer le terrain pour la suite de l'exposé, puisque moi, vous voyez derrière moi quelques images qui défilent. qui reste assez sobre, hein, ce sont des images de présentation, mais je vous rassure, vous verrez par la suite des clichés qui sont plus intéressants et beaucoup plus axés sur les documents en tant que tels. En fait, donc, pour étendre, comme je vous le disais, le nombre de documents présents dans cette réserve, donc il y a eu tout un travail qui a été mené en réalité sur plusieurs années, donc qui a consisté, comme je vous l'expliquais, à enrichir les collections par un système de repérage de documents dans les magasins, enfin par les fichiers évidemment, puis dans les magasins, et donc de sélection, alors, d'un point de vue intellectuel évidemment. Et puis une fois que cette sélection a été faite, le rôle notamment de ce qui a préfiguré le pôle conservation actuel, ça a été éventuellement de préparer ces documents dans l'objectif du déménagement. Donc il y a eu plusieurs étapes. Toutes les étapes n'ont pas concerné tous les documents, évidemment, puisque ça dépendait beaucoup de l'état de chacun. Mais on peut retenir, par exemple, alors on va arriver dans des termes un peu techniques que je vais m'efforcer de détailler au fur et à mesure. La première étape, par exemple, ça a été le dérondage des documents. Donc le rondage, en fait, c'est le fait de noter la cote du document à la main sur une étiquette qui est posée sur le document. Donc c'est quelque chose, par exemple, qui n'arrive que pour les documents anciens. Pour les documents les plus récents, on a un système d'étiquetage automatique avec des étiquettes autocollantes. Donc il fallait déronder un certain nombre de documents pour pouvoir leur attribuer leur nouvelle cote. Donc re-ronder par la suite. Mais la première étape, donc, ça a été ce dérondage. Ensuite, on a eu, pour certains des documents, un gommage. Donc Séverine reviendra plus avant sur toutes ces techniques. Donc c'est une étape, vous le verrez, qui est assez longue, puisque c'est vraiment feuille à feuille. C'est un travail manuel, évidemment. Donc c'est une étape qui prend beaucoup de temps. On a eu ensuite, alors pour beaucoup des documents, pas tous, puis c'est un chantier qui continue, un dépoussiérage des documents. Alors soit un dépoussiérage minutieux à l'aspirateur, soit un dépoussiérage plus rapide au chiffon microfilm. On a eu dans un certain nombre de cas un conditionnement des documents ou un reconditionnement, suivant l'état des documents. Donc ça peut être des pochettes, des boîtes, etc., la taille des documents pour les protéger notamment de la poussière. Et donc, à la fin de tout ce travail, l'objectif étant de déménager, eh bien, il a fallu mettre tous ces ouvrages dans des cartons, puisque l'entreprise qu'on avait retenue pour le déménagement de l'ensemble des collections nous avait laissé, enfin c'était compris hein, dans le contrat, à charge de préparer tous ces ouvrages, donc de les mettre nous-mêmes en carton pour que les déménagent et les installent une fois arrivés ici. Donc moi, ça me donne l'occasion, en tant que responsable du pôle conservation, de remercier les collègues, dont un certain nombre sont dans la salle, qui ont participé à ce chantier, qui nous a quand même occupé beaucoup de temps, qui était parfois un peu ingrat, puisqu'il y a eu beaucoup de poussière dégagée, et aussi les collègues qui ne faisaient pas partie du pôle conservation et qui sont venus très volontiers prêter main forte pour cette opération. Donc pour vous donner une idée, j'ai fait le calcul rapidement, et je n'ai pas tout recensé, mais ça représentait en fait à l'arrivée 1556 cartons. Et là, je ne compte pas ce qui ne passait pas dans les cartons, qu'il a fallu déménager avec d'autres techniques, donc sur des chariots qui étaient fournis par les déménageurs, par exemple. Donc un gros travail de manutention autour de ça, pour pouvoir déployer à l'arrivée de façon beaucoup plus confortable et beaucoup plus conforme aussi à ce qu'on attend, les ouvrages de la réserve. Ça me donne l'occasion, pardon, de faire une petite parenthèse sur les conditions dans lesquelles on doit stocker les documents. Donc les magasins... Excusez-moi, je vais boire un petit verre d'eau. Pardon. Donc les magasins de la Bulac sont tous climatisés avec un système de climatisation par magasin. Évidemment, les magasins de la réserve, ne font pas exception et ils sont même plus particulièrement surveillés que les magasins du fonds généraux. Donc c'est vraiment chaque magasin a son atmosphère propre, qui est une atmosphère la plus saine possible, avec des températures et des taux d'humidité contrôlés. L'autre point pour le stockage des documents de la réserve, c'est qu'en fait, dans la plupart des magasins, on a du matériel qui est mobile. En fait, ce sont des étagères qu'on peut déplacer à l'aide d'un volant. Et le choix qui a été fait pour les magasins de la réserve, en fait, c'est d'avoir du mobilier fixe pour éviter au maximum tous les risques de chute en fait, que peut entraîner le déplacement de ces étagères qui s'appellent des compactus, ces étagères mobiles. Donc, en fait, comme je vous l'évoquais précédemment, ce travail n'a pas été achevé encore à l'heure d'aujourd'hui, puisque les chantiers, notamment de dépoussiérage, enfin, et autour du dépoussiérage, continuent encore actuellement. Donc, tous les ouvrages ne sont pas encore dans l'état optimal qu'on pourrait souhaiter, puisque, comme ce sera développé par la suite, c'est du travail qui est très minutieux et très long. Donc pour l'instant, c'est encore en cours. Ça n'empêche pas de consulter les documents, évidemment, mais du coup, le dépoussiérage final n'est pas encore fait. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que je vous parlais donc des environ 13 000 documents qui sont actuellement disponibles à la réserve. On estime que, bon, comme on a encore beaucoup de place dans les magasins de stockage, que rien que sur les ouvrages disponibles encore dans les fonds généraux, on pourrait assez facilement arriver à 40 000 environ documents pour étayer et renforcer cette réserve. Du coup, l'enrichissement en lui-même continue là aussi au fur et à mesure, puisque l'ouverture de la bibliothèque au public et donc la reprise des communications des documents nous a permis aussi au coup par coup de faire du repérage et de découvrir des documents dont on se disait qu'ils étaient tout à fait dignes de rejoindre les rangs de la réserve. Donc c'est une procédure qui a été mise en place là depuis l'ouverture de la Bulac au public et qui est à peu près quotidienne, je dirais, ou en tout cas qui arrive plusieurs fois dans une semaine, où donc les personnels repèrent au moment du prélèvement des documents un ouvrage, donc suivant des critères qui ont été élaborés. Donc il y a notamment des critères de date, mais ce ne sont pas les seuls, qui permettent au personnel donc de repérer un ouvrage qui est destiné finalement à la réserve. Et donc on a un circuit interne qui nous permet d'intégrer directement ces documents, de ne pas les renvoyer après communication dans leur magasin d'origine, mais bien de les intégrer pour une meilleure conservation toujours, et puis une meilleure connaissance aussi. Simplement, peut-être pour revenir rapidement sur les critères de date que je n'ai pas évoqués. Pour les documents antérieurs à 1851 pour les langues occidentales et les fonds d'Europe balkanique, donc sont les ouvrages qui sont destinés à rejoindre la réserve, et pour toutes les autres langues, en fait, sont les documents antérieurs à 1921. Évidemment, il peut y avoir des exceptions, mais disons que c'est la règle la plus générale et à laquelle on se fie au quotidien. Donc en fait, toute cette première partie un peu introductive, c'était aussi pour vous montrer les soins qui sont accordés aux documents de la réserve en particulier, même si on s'efforce évidemment d'en accorder aux documents des fonds généraux aussi. Donc aussi pour vous alerter éventuellement en tant que lecteur sur les soins qu'on attend de la part de nos lecteurs aussi sur ces fonds-là, puisque de notre côté, on s'efforce de former le personnel pour tout ce qui est manipulation. Et donc, évidemment, on espère que le soin qu'on accorde à nos ouvrages sera également rendu par chaque personne qui consultera ces mêmes ouvrages. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Séverine pour la suite.
Merci Virginie, bonsoir à tous. Donc, en ce qui me concerne, je vais vous parler plus précisément de l'atelier de conservation de la Bulac, dont vous avez une photo juste derrière moi, et des principales activités qu'on y fait. Donc, comme Virginie vous l'a expliqué, les connexions de l'ancienne réserve de la Bulo ne représentent pas aujourd'hui la plus grosse masse de travail que nous avons à l'atelier, puisque la plupart des documents qui la constituent ont de longue date été identifiés comme rares et précieux et ont à ce titre bénéficié donc d'un stockage particulier dans un magasin sécurisé qui leur était réservé, mais qu'en plus on a eu plusieurs campagnes de restauration qui se sont succédées dans les dernières décennies. Donc vous pouvez voir derrière moi sur la gauche en fait des ouvrages qui sont encore dans nos collections et qui sont dans un état plutôt avancé au niveau des dégradations. Et donc sur la droite, des ouvrages qui ont été restaurés il y a à peu près une dizaine d'années. Donc finalement, ce qui nous occupe un maximum de notre temps, ce sont les collections qui appartiennent au fonds général de la Bulo, y compris les collections les plus courantes, puisque le façonnage n'est pas pour autant d'une meilleure qualité. Donc il faut savoir que sur les anciens sites en fait, de la bibliothèque, il n'y avait pas d'atelier de conservation et que les collections ont peu fait l'objet d'entretiens réguliers, type dépoussiérage et petites réparations. Donc on a un gros passif derrière nous qu'il faut aujourd'hui rattraper. Donc c'est vraiment une très grosse charge de travail. Un des défis auxquels nous devons également faire face concerne la nature même de nos collections, puisque vu qu'elles proviennent de zones géographiques très diverses, les modes de fabrication et de façonnage dans chacun de ces pays sont différents. Et de ce fait, nous devons appréhender le document d'une manière différente, puisque chaque papier va réagir de sa propre manière suivant les traitements qu'on va lui appliquer. Donc ces caractéristiques physiques et chimiques propres à chaque document sont souvent des sources de dégradation qui pour nous sont difficiles de les maîtriser. On a par exemple tout ce qui va être élément métallique à l'intérieur d'un façonnage, donc ici une photo d'agrafe en fait qui est en train de se déliter, qui se corrode. On a également le problème avec des encres qui étaient utilisées par le passé, qu'on appelle des encres métallogalliques, donc qui sont fabriquées à partir de sulfate de fer ou de cuivre et qui en fait en se corrodant finissent par déliter complètement le papier, et donc ça provoque la perte de certaines zones de texte. Pour ce qui est du vieillissement, on va également avoir le problème des colles, notamment d'origine animale, qui perdent tout pouvoir adhésif et deviennent très cassantes dans le temps. Donc ce sont finalement des reliures qui deviennent très fragiles. Et un des gros problèmes également auxquels nous sommes confrontés au sein d'une importante masse de nos collections, c'est le papier acide, donc qui concerne essentiellement des périodiques pour les périodes du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, et aussi un grand nombre de productions des pays de l'ex-Union soviétique. Et c'est malheureusement un procédé qui est irréversible, ce vieillissement, cette acidité du papier. On ne peut que le ralentir grâce à des bains et des doublages, mais ce n'est pas actuellement un traitement que nous pouvons pratiquer, puisque nous ne sommes que trois à l'atelier de conservation, et donc les priorités ont été mises sur d'autres traitements. Oui, Virginie ?
Oui, juste pour compléter, en fait, le procédé de désacidification nécessite un équipement très particulier qu'aucune bibliothèque en France n'a, à l'exception de la Bibliothèque nationale de France. Donc en fait, ce sont des travaux qu'il faut prévoir très en amont pour pouvoir envoyer les collections de façon à ce qu'elles puissent être traitées. Et donc ça donne des collections qui sont indisponibles pendant une période en général assez longue, le temps que le traitement soit opéré.
Merci beaucoup pour ces précisions. Donc après cette petite introduction qui, je l'espère, vous permet de mieux visualiser le contexte général dans lequel nous travaillons à l'atelier, je vais vous décrire les principales interventions physiques que nous réalisons sur les documents. Pour l'instant, je vais essentiellement parler des documents de type livre. Juste avant de passer la parole à Francis Richard, je vous présenterai aussi quelques documents plus atypiques que nous avons la chance de posséder à la bibliothèque et dont nous avons également la charge. Donc une des activités principales que nous avons à l'atelier, c'est le découronnage. En fait, ça consiste à découper les pages du livre pour qu'il puisse être lu. Donc vous doutez que ce sont des façonnages qu'on ne trouve plus tellement dans les éditions récentes. Donc pour nous, c'est toujours une activité assez émouvante, puisque ça signifie en général que le livre est assez ancien et que pour la première fois, enfin, il va pouvoir sortir de son rayonnage pour être consulté. Donc c'est toujours très touchant de faire ça. Nous avons également, et donc je me permets juste de vous rappeler que c'était un geste technique, et que si jamais au cours de vos consultations de documents vous êtes vous retrouvez avec des documents qui sont encore à découronner, il faut surtout nous le rapporter en banque pour que nous fassions ça à l'atelier de conservation dans les meilleures conditions. S'il vous plaît, ne vous lancez pas dans ce genre d'opération par vous-même. Il y a beaucoup de documents qui ont été massacrés de cette façon, en fait. Donc Virginie vous a tout à l'heure parlé du dépoussiérage. Moi, je vais vous préciser ça rapidement. Donc, vous avez ici une photo en fait du gommage de la reliure, d'une reliure qui date du XVIIIe siècle. Donc, on utilise pour ça un certain nombre de matériel que je vais vous décrire. Juste un petit point sur la poussière. En fait, vous vous rendez compte que non seulement elle est très désagréable lorsque vous manipulez des documents, qu'elle peut en plus provoquer un certain nombre d'allergies, troubles respiratoires, etc. Ce qu'il faut aussi savoir, et ça, on y pense moins, c'est qu'elle est aussi dommageable pour un document. C'est-à-dire qu'elle est abrasive, donc au fur et à mesure des manipulations et des frottements sur les étagères, ça finit par réellement endommager le livre. Et c'est également un problème puisque ça favorise le développement de tout ce qui est micro-organismes et donc moisissures, l'apparition d'insectes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un espace qui est très empoussiéré finit par être totalement asséché, ce qui favorise en fait les incendies, et une couche épaisse de poussière favorise également la propagation du feu physiquement parlant. Donc pour nous, c'est vraiment un cheval de bataille dans l'entretien de nos magasins au quotidien. Donc pour cela, comme je vous le disais il y a quelques instants, nous utilisons une gomme latex en fait, qui est une gomme de type plastique non abrasive. Et on associe en fait ce travail à un aspirateur qui est à filtre absolu, donc qui empêche la diffusion dans l'atmosphère de particules de l'ordre de 0,3 microns. Donc c'est vraiment ça permet vraiment de garantir un environnement sain au sein de l'atelier. Puisque je vous parlais gomme et aspirateur, c'est l'occasion pour moi de vous faire un petit point sur le matériel, puisque ce qui est intéressant de savoir pour vous, c'est que le matériel que nous devons utiliser doit répondre à des normes très très spécifiques en matière de conservation. Donc tout ce qui est papier et colle doivent avoir un pH neutre, mais surtout un pH qui est permanent dans le temps, donc qui assure une certaine stabilité pour ne pas endommager davantage le document lors de son vieillissement. Pour ce qui est du papier, nous utilisons principalement ce qu'on appelle du papier Japon, qui est disponible en différentes épaisseurs. Donc c'est un papier originaire, vous l'aurez deviné, je pense, du Japon, qui aujourd'hui encore est fabriqué principalement de manière artisanale. Et on le fabrique à partir de fibres de mûrier, qui sont des fibres extrêmement longues et qui permet d'avoir une très très bonne résistance physique aux déchirures, et même pour le papier Japon dans la plus fine épaisseur, puisqu'elle est de l'ordre de 3 grammes par mètre carré en fait. Donc c'est vraiment un voile très très léger. Pour ce qui est des colles, nous utilisons de l'amidon, de blé, de riz ou de maïs, et des colles de type cellulosique qui, en séchant, sont toutes transparentes. La seule chose, c'est qu'elles ont des propriétés adhésives différentes, et donc l'usage de chacune est à adapter suivant à la fois le support, mais aussi le résultat que nous voulons obtenir après traitement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces matériaux, et ça c'est l'une des règles que nous devons vraiment suivre, c'est que tous ces matériaux doivent être réversibles et le sont. Donc finalement, avec tout ce matériel, que faisons-nous ? Eh bien des interventions essentiellement sur la structure du document et sur des zones en fait. Des ouvrages qui assurent vraiment la solidité du document et qui facilitent sa consultation et également son intégralité. Donc je vous citais tout à l'heure un certain nombre de dégradations sur lesquelles on ne pouvait rien, type la corrosion, le vieillissement du papier. Vous vous doutez du coup que si on intervient sur des zones structurellement parlant importantes pour le document, c'est qu'ils auront été endommagés suite à leur manipulation. Donc nous avons donc de nombreuses déchirures à réparer. Vous pouvez voir ici qu'elle est assez importante. Donc avec le petit voile de Japon dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on appelle également pelure, on va pouvoir découper un morceau au format en fait de la déchirure, et en séchant, le papier redeviendra quasiment transparent. Donc même Si on fait un collage sur du texte, quoi qu'il en soit, on arrivera toujours à lire ce qui est en dessous. Donc pour nous, c'est vraiment un matériau qui est très très important. On va également avoir beaucoup de coiffes à consolider. Vous pouvez voir qu'ici, elle a été en partie arrachée. La coiffe, c'est vraiment une zone de fragilité dans le document, puisque dans un document relié, puisqu'en fait, par réflexe, c'est le premier endroit auquel le doigt vient s'accrocher, alors que finalement, c'est une zone qui n'est pas aussi solide que son usage qui le devrait... devrait l'être. Excusez-moi pour ce petit cafouillage. Nous avons également beaucoup de réparations à faire au niveau des mors. Ici, vous avez une reliure cuir. En fait, au niveau de la jointure entre le dos et le plat, le cuir était déchiré. Donc, nous avons posé une charnière donc, en papier japon. Vous voyez à peu près le résultat. Et nous avons également la coiffe qui a été renforcée. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne faisait que des interventions sur la structure du document, c'est-à-dire que ça, ce sont vraiment des points importants. En revanche, on ne fait aucune retouche esthétique. Donc, ces charnières resteront blanches, puisqu'on n'a pas le temps, comme je vous l'ai dit, on est 3 personnes et vraiment une grosse masse de documents à traiter. On n'a vraiment pas le temps de refaire des remises au ton et de reprises de décor simplement pour l'esthétique du document. On va également avoir énormément de plats à rattacher, puisque les charnières en fait, qui se trouvent à l'intérieur du document sont en général des points de fragilité, puisque là, en l'occurrence, le plat ne tenait que par 3 ficelles qui ont fini par se casser au cours des manipulations. Et un très grand nombre de pages volantes à refixer, ça c'est vraiment... une de nos pratiques quasi quotidiennes, en fait. Donc, même si nous intervenons un minimum sur les documents et avec des matériaux qui ne sont en rien dommageables pour eux, ce qui est important à noter, enfin à garder en tête, c'est qu'un document réparé reste un document fragile, et d'où une certaine insistance de notre part pour, en ce qui concerne les conditions de consultation de ces documents. Et donc, rapidement, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, un petit tour des collections un petit peu plus atypiques que nous possédons dans nos collections. Donc nous avons ici une carte qui fait à peu près 1,20 m de long. Donc ça représente un plan de Pékin en fait. Ça c'est un document que nous devons entretenir. Donc il y a un stockage particulier puisque en rouleau il va y avoir également un conditionnement particulier, des conditions de consultation qui sont vraiment très spécifiques à ce type de document. Donc à savoir un plan de travail qui est très grand et surtout des poids pour maintenir le rouleau ouvert. Nous avons également des manuscrits de toute forme puisque de toute provenance. Donc ici, un manuscrit en langue tamoule qui se présente sous la forme de ce qu'on appelle des aules. Donc ce sont des feuilles de palmier qui sont, vous le voyez, qui sont percées et donc reliées par une ficelle. Donc c'est encore très courant dans certaines zones, notamment d'Asie du Sud-Est. Vous avez également ici un manuscrit chinois sur rouleau. Donc vous vous doutez que ce sont des conditions de conservation et là aussi de manipulation très particulières, puisque ce sont des papiers qui deviennent très fins, très fragiles dans leur manipulation et qui néanmoins ne perdent rien de leur splendeur au fil des âges. Et voici également un manuscrit, alors là pour le coup sous une forme plus traditionnelle puisqu'il est en feuillet, un manuscrit turc qui présente encore de magnifiques enluminures et ornementations dessinées alors. Ce qui me fait finalement une très bonne transition pour passer la parole à Francis Richard qui va plus précisément en fait vous développer vous présenter en fait le fond de manuscrits, notamment arabes, que nous possédons à la bibliothèque. Merci de votre attention.
Merci beaucoup. En fait, ma petite présentation sera assez brève et assez, assez sommaire. Je prendrai l'exemple du fond arabe, des manuscrits, mais aussi des imprimés, pour essayer de vous donner une idée de ce que représente la réserve de la Bulac et de ce qu'elle peut apporter, et d'autre part, de ce qu'on doit faire dans les mois et les années qui viennent et ce que nous espérons pouvoir mener à bien pour que ces collections soient un peu mieux connues, un peu mieux utilisées et puissent mieux servir aux chercheurs. Alors, quelques chiffres d'abord. S'agissant des imprimés arabes, et il est intéressant de voir que dès l'année 1897, on a publié un catalogue des imprimés arabes qui se trouvait à la bibliothèque de l'École des langues orientales. C'est Lambrecht, qui était secrétaire bibliothécaire, qui publie un catalogue qui comporte 3533 notices, c'est-à-dire c'est un chiffre assez considérable, avec une description de tout ce qui concerne la langue arabe et de tout ce qui est en arabe et dans quelques autres langues en écriture arabe. Et au sein de ces 3533 titres, on en trouve 3187 qui sont en langue arabe. C'est-à-dire que c'est considérable. Sachant que Lambrecht a simplement donné la description des livres sans en donner la cote, ce qui malheureusement ne rend pas beaucoup service pour l'utilisation de son catalogue. Donc un des premiers travaux à faire, c'est d'aller retrouver la cote. Et lorsqu'on retrouve la cote, on s'aperçoit qu'il y a souvent plusieurs exemplaires des différents titres qu'il a recensés. Donc ça nous permet d'apprécier la valeur de la collection, aussi d'avoir un ordre de grandeur de ce que représente la collection de la Bulac en termes d'imprimés arabes. Et sur ce nombre, si l'on applique les critères de choix qui ont été pris pour la réserve, et là je salue au passage ma collègue Françoise Ours qui a donné de façon définitive ces critères, les imprimés antérieurs à 1851 publiés dans le monde occidental pour l'arabe sont relativement moins nombreux que ceux qui ont été publiés en Orient. Et lorsque l'on applique le critère de 1920 pour la dernière date de la réserve, on voit qu'entre 1897 et 1920, la publication s'est poursuivie et donc on arrive à un chiffre voisin de 5000 ou sinon plus pour les imprimés arabes qui se trouvent à la réserve. Le problème auquel nous sommes confrontés est multiple. D'abord, il y a l'état des documents. Malheureusement, beaucoup de ces imprimés arabes sont sur des papiers acides. Le papier acide est apparu très tôt, au Proche-Orient notamment, et tous les papiers industriels sont en état de décomposition. Et c'est un des problèmes de ce fonds arabe. L'autre problème, c'est le problème du catalogage. Cette présence d'un beau catalogue imprimé est quelque chose de glorieux pour la bibliothèque, autant c'est actuellement un handicap, puisque il faut attendre l'achèvement de la rétroconversion des catalogues pour pouvoir avoir accès à l'ensemble de ces collections de façon satisfaisante. Or, la rétroconversion du catalogue arabe est une entreprise qui est en cours, mais qui est une entreprise de longue haleine et qui demandera encore certainement, probablement, plusieurs années. Et en même temps que cette rétroconversion, il y a progressivement un travail qui doit être entrepris de réalisation de notices qui soient conformes aux normes de description des livres anciens. Donc c'est aussi une étape, ça veut dire qu'on doit reprendre les notices pour beaucoup d'ouvrages, les compléter s'agissant des reliures, puisqu'il y a des reliures qu'il faut décrire, s'agissant de l'histoire des exemplaires, puisque les collections ont une histoire, et pour cette partie du fond, c'est une histoire qui est intéressante, puisque c'est toute l'histoire de l'orientalisme français. Et on revient à l'histoire de la bibliothèque. Les plus anciens imprimés qui viennent d'Égypte sont présents à la bibliothèque, donc les impressions napoléoniennes. Ensuite, la bibliothèque est très riche en en exemplaires qui ont été imprimés au Caire dans le fameux atelier de Boulark. Donc avec souvent plusieurs exemplaires de la même édition, des éditions qui avaient été faites sur des manuscrits qui se trouvaient en Égypte et qui sont souvent maintenant perdus. Très riche en éditions faites à Istanbul et très riche en éditions faites dans les différents lieux du Proche-Orient. Donc c'est un des aspects du problème. Il faut, pour nous, progresser dans ce domaine et peut-être aussi profiter de collaboration avec différents chercheurs. Mais nous reviendrons avec quelques images sur ces imprimés. Ce que j'aurais voulu mentionner, c'est brièvement l'importance de ces fonds d'imprimés arabes pour la recherche. En fait, il faut certainement affirmer que la collection d'imprimés arabes anciens de la bibliothèque est une des plus importantes qui existe. Et elle mérite d'être mieux connue, mieux mise en valeur. Et donc, pour nous, c'est un devoir. Il y a des impressions italiennes, il y a tous les ouvrages qui ont été réalisés depuis le XVIe siècle sur la langue arabe, qui ont été soigneusement accumulés au cours du XIXe siècle pour avoir un fonds documentaire unique sur les études arabes et islamiques. Et il y a ces impressions qui ont été faites jusque à la guerre de 1914, qui ont été collectionnées avec soin par Schaeffer, par ses collègues, et qui ont souvent été réunis par l'intermédiaire des ambassades qui avaient la mission de collecter les impressions, sans parler de choses fort rares comme les lithographies arabes qui ont été réalisées en Inde ou en Égypte ou à Fès. Voilà. Deuxième élément de la collection, c'est la collection des manuscrits. Alors, la collection des manuscrits arabes de la Boulark est une collection qui comporte deux parties. Il y a les deux manuscrits arabes qui se trouvent dans le fond de la bibliothèque d'Armesteter. Il y a un très beau Coran et un ouvrage de droit arabe. Et environ 2000 manuscrits qui proviennent du fond de la rue de Lille, du fond de la Bulo. Et ces 2000 manuscrits ont malheureusement été un peu les oubliés de l'histoire. Histoire qu'on peut rappeler, les premiers manuscrits arabes de l'école, ce sont des manuscrits qui ont été collectionnés aux alentours de 1720 pour la première école de Louis le Grand. Ensuite, il y a eu un accroissement assez important autour de 1830, avec Johannin et d'autres qui ont constitué un fonds de plusieurs dizaines de manuscrits destinés à l'enseignement. Mais surtout, c'est dans la deuxième moitié du 19e siècle qu'il y a eu des achats systématiques de manuscrits pour arriver à environ un ensemble de peut-être 700 manuscrits aux alentours de 1914. C'est un nombre considérable. Et à ces manuscrits s'ajoutaient de nombreux fragments. Alors, pour vous donner les chiffres, il y a actuellement 920 des cotes, 9 arabes, 1 à 920 dans le fond, mais il y a eu beaucoup de problèmes de cotation et il y a des cotes bis et ter, ce qui fait qu'il y a 1100 manuscrits qui sont cotés. Et à ces 1100 manuscrits cotés s'ajoutent environ 700 à 800 fragments vous avez vu tout à l'heure les magasins où j'ai pu ces derniers mois rassembler ces fragments, les étaler, ce qui n'était pas possible rue de Lille. Et actuellement, on est en train d'essayer de regrouper les feuillets qui viennent des mêmes manuscrits et de reconstituer dans la mesure du possible les volumes pour pouvoir les coter et les cataloguer. C'est assez amusant à faire. Le travail, en fait, est simple. On compte le nombre de lignes d'un manuscrit et on le mesure. Et ensuite, on classe les lots par nombre de lignes et par dimension. Et on se trouve à reconstituer plus ou moins les manuscrits. Ensuite, on arrive quelquefois à trouver la page de titre. Alors, on est très content. Voilà. Et donc, ces acquisitions avaient été cataloguées par un érudit complètement oublié qui s'appelait Abraham Danon, qui est mort en 1925, qui était un savant juif d'Istanbul, qui était d'une très grande érudition ottomane, donc arabe, persan, turc, hébreu, et qui a laissé un catalogue manuscrit, qui est sur un papier très acide, qui s'abîme et dont il existe heureusement un microfilm, mais qui n'a jamais été édité. Et donc l'accès à ces collections est réservé aux personnes qui connaissent l'existence de ce manuscrit. Et ensuite, il y a eu un projet de catalogue qui a commencé avec la rédaction de quelques notices par Georges Vaïda, qui est mort en 1981, je crois, mais qui a fait ce travail aux alentours des années 1950. C'est resté inachevé. Ce sont des notices manuscrites qui sont dans des boîtes. Un ancien bibliothécaire de la Bulo, Abdelrani Ahmed Bioud, qui est décédé en 89, avait fait des fiches pour certains manuscrits. Ces fiches sont restées sans être utilisées. Donc il y a une véritable, si je veux dire, une véritable malédiction sur cette collection. Et l'urgence, maintenant que la Bulac est ouverte, c'est donc de cataloguer les manuscrits arabes. Alors, cataloguer les manuscrits arabes, ça veut dire de regrouper les fragments. Bon, ça, c'est relativement facile, mais faire des descriptions des manuscrits, reprendre les éléments des catalogues qui ont déjà été faits. Et je crois pouvoir annoncer que je me suis acquis un concours pour cette opération de Janusz Witkam, l'ancien conservateur de la bibliothèque de Leiden, qui propose de préparer le catalogue de cette collection avec moi, et je crois que si on arrive à le faire, ça sera un travail assez intéressant et formidable pour les chercheurs, d'autant qu'il y a malgré tout des gens qui connaissent cette collection. Par exemple, les travaux récents sur les mille et une nuits prennent appui sur certains des manuscrits de la collection qui sont déjà connus, mais il y en a d'autres qui pourraient s'y ajouter. Et donc, malheureusement, il faut faire bref. Donc, pour valoriser cette collection, donc, il faut d'abord la cataloguer. Mais la cataloguer sous quelle forme ? Ce n'est pas malheureusement dans le catalogue Sudoc que les manuscrits sont décrits. Il y a un catalogue spécial qui est dévoué aux manuscrits des bibliothèques universitaires françaises, qui est le catalogue Calam. Et parallèlement au travail qui doit être fait avec les notices qu'on doit préparer en reprenant les anciens catalogues avec Witkam, il faudra les saisir dans Calam et les rendre accessibles le plus rapidement possible dans cette base des bibliothèques universitaires françaises. Numérisation, alors bon, évidemment, on rêve de numériser les fonds, mais pour les numériser, il faut qu'ils soient décrits, parce que numériser des manuscrits non décrits, ça ne sert à rien. Et donc, alors on a déjà, sur le site de la Bulac, si vous regardez, il y a une trentaine de manuscrits arabes qui ont été numérisés depuis 2 ans, et qui sont assez bien reproduit et qui sont accompagnés d'une petite notice. Si nous trouvons des financements et des moyens, nous continuerons, parce que c'est un moyen de rendre nos collections accessibles. Exposition. Bon, c'est dans la mesure où les collections sont connues, elles peuvent être exposées. À l'occasion d'expositions, on peut faire des travaux sur les manuscrits. Des présentations sur différents sujets en collaboration avec des équipes de recherche. Alors moi, j'ai parlé des mille et une nuits, il peut y en avoir d'autres. Vous avez vu les deux images de manuscrits turcs illustrés tout à l'heure. C'est quelque chose qui a beaucoup intéressé des collègues, puisqu'actuellement la Bibliothèque nationale de France a un programme sur les manuscrits de Kalila et Demna illustrés, et ils ignoraient totalement qu'on avait ici quelques illustrations d'un manuscrit turc du XVIe siècle. Donc tout cet ensemble d'opérations nous permettra, on l'espère, de limiter l'accès aux originaux, si on arrive à faire de la numérisation, et d'autre part, de faire mieux connaître nos collections. Voilà. Voilà l'essentiel. Donc, c'est vous présenter des chantiers, finalement. Il y a quelques images, on peut les passer très rapidement. Donc, c'est un des documents d'archives qui accompagne les fragments, les nombreux fragments arabes. Il y a aussi des archives qui viennent essentiellement du Maghreb et qui sont venues avec la collection de Soleiman al-Harairi, qui était répétiteur dans les années 1880 et qui était un très grand collectionneur de manuscrits. Beaucoup de nos manuscrits arabes viennent du Maghreb ou d'Afrique centrale. Donc voici une reliure africaine intéressante. Le problème de ces manuscrits africains, ce sont des manuscrits qui sont en feuilles et pas en cahier. Donc leur conservation, leur catalogage, leur utilisation est très complexe. Ensuite, voici. Mais il y a aussi des volumes plus classiques et en bon état. Et je dois saluer le travail de nos prédécesseurs qui, malgré le fait que ces collections étaient peu connues, peu accessibles, ont fait restaurer certains manuscrits. Donc, on ne se trouve pas devant des collections en si mauvais état que cela. Ensuite, le manuscrit, ça veut dire tout un ensemble de choses. Les collections, les ex-libris. Et, par exemple, ici, c'est un ex-libris sous forme de cachet d'un varf d'une madrassée d'Asie centrale du XVe siècle. Donc c'est un élément très intéressant pour les historiens. Ensuite, donc très brièvement, les collections d'imprimés pour en montrer les principales composantes. Donc je vous évoquais tous les imprimés européens concernant les études arabes, et souvent des choses rares, des abécédaires, des ouvrages qui n'ont jamais été terminés d'imprimer, mais dont la bibliothèque possède des épreuves. Ensuite, voilà. Donc, et tous ces dictionnaires, évidemment, parfois en très nombreux exemplaires. Mais... bon. Disparu. Bon, c'est les quelques images qu'il y avait ensuite. Il s'agissait d'exemples des éditions des Dominicains de Mossoul, par exemple, qui sont une chose assez, assez rare. Et on a à peu près toutes les éditions en arabe des Dominicains de Mossoul entre 1830 et 1860. Des Franciscains de Terre Sainte à Jérusalem également. Évidemment toutes ces impressions égyptiennes, les impressions faites à Istanbul à l'imprimerie impériale et beaucoup d'impressions d'Afrique du Nord et notamment les lithographies de Fès, et on a également quelques ouvrages par exemple qui ont été lithographiés à Zanzibar, ce qui est assez rare, plus des choses curieuses comme les ouvrages qui ont été imprimés à Kazan en imitant les éditions qui étaient faites à Bulak, Caire, et quelques collections de périodiques aussi. Voilà. Merci pour votre patience.
Merci pour ces exposés très riches. S'il y a des questions, je passerai le micro. Vous attendez les images.
Alors, je suis désolée, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, puisque quand j'ai visionné tout à l'heure, en vous attendant le diaporama, les images étaient là, en fait. Et même sur ma clé, elles ont disparu, donc je suis navrée de cette erreur de manipulation. Je ne sais pas du tout d'où ça peut venir, et si ça vient de moi, j'en suis une fois de plus navrée.
Donc il faut imaginer des imprimés qui ont un faux air de manuscrit et qui essayent d'imiter les manuscrits, puisque, comme vous savez, l'imprimerie a démarré au XIXe siècle dans les pays du Moyen-Orient, mais les gens étaient habitués à une culture de manuscrits, donc il fallait une disposition à la fois avec un frontispice et puis un colophon à la fin. Donc on a soigneusement imité la forme de... alors que les éditions des Bons Pères, elles, sont beaucoup plus proches des éditions occidentales. Il y avait aussi une image qui était intéressante. Il y a toute une série d'impressions arabes qui ont été faites à Malte. Ils sont souvent des traductions d'ouvrages occidentaux. Par exemple, il y a Robinson Crusoe, il y a un certain nombre de textes comme ça qui ont été très tôt traduits et diffusés à partir de Malte.
Est-ce que vous pourriez préciser, si vous avez des notes là-dessus, le temps que vous a pris la préparation des 13 000 documents et une idée de budget en matériel de conservation également ?
Alors, sur le budget, je ne saurais pas vous faire le calcul. C'est vrai que c'est un chiffre que je n'ai pas regardé avant de venir. Ça nous a surtout coûté cher en carton, hein, pour tout dire. Puisque, en fait, en dehors de mettre les ouvrages dans du papier de soie et puis du papier bulle, puis les mettre en carton, c'était voilà, le coût humain, après, évidemment, toutes les personnes qui ont travaillé dessus. En revanche, sur le temps qu'il a fallu, ça s'est étendu grosso modo sur 2 ans, en fait, cette préparation, même si, évidemment, on a mis en carton le plus tardivement possible pour éviter... d'avoir du stockage dans du papier bulle notamment, qui n'est jamais très, très conseillé. Mais en fait, pour gagner de l'espace, puisqu'à cette époque-là, on avait quand même des gros problèmes de stockage en attendant d'arriver ici, il y a une partie des collections qui ont été envoyées au centre technique du livre, donc en banlieue parisienne, près de Marne-la-Vallée, enfin à Bussy-Saint-Georges. Et ça représentait, alors en nombre de documents, je ne sais plus exactement, mais 13 palettes de 32 cartons à chaque fois. Donc un bon nombre de documents qui étaient en fait préparés, eux, bien en amont.
Oui, sans compter que les sélections n'étaient pas complètement terminées.
Oui, donc, ça s'est fait.
Oui, c'est parce qu'on a été obligé, parce qu'il y avait plusieurs priorités dans le déménagement, de ralentir à un certain moment la préparation de la réserve et de la remettre pour après le déménagement.
Et sans compter ce que j'ai peut-être pas assez précisé, qu'il y a eu en fait des chantiers parallèles. Puisqu'il y avait cet envoi donc des documents au CTL qui s'est fait au fur et à mesure. Il y a eu les différentes campagnes de préparation qui étaient sur plusieurs sites, en fait sur 2 sites, puisqu'elles ont eu lieu rue de Lille sur l'ancien site de la Bulo, et aussi sur un autre site qu'on avait où étaient principalement des bureaux, qui étaient dans le 12e arrondissement, et où donc il y avait aussi une partie des documents qui étaient acconditionnés à cet endroit-là. Et chantier parallèle aussi, puisqu'on a tout organisé par format, et que donc parallèlement, il pouvait y avoir par exemple un chantier d'époussiérage d'octavo et un chantier d'encartonnage de folio, admettons. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Et puis il y a les recotations aussi. Enfin, très brièvement, il y avait eu tout un débat avant le déménagement pour savoir... Bon, quelle recotation on ferait pour la réserve, et finalement il y a une cotation par format assez simple avec 3 formats
et un identifiant réserve,
oui, on garde soigneusement la trace des cotes antérieures.
Je vais juste vous repasser le micro s'il vous plaît.
Mais oui, parle dans le micro.
Bonsoir, vous venez d'évoquer la cotation par format, mais par fond, puis par format, ou bien par format, tout fond confondu ?
Voilà, alors pour les imprimés, enfin les imprimés occidentaux, parce que le chinois, le japonais, on a décidé de ne pas toucher les cotes parce que c'est à part, on a... format tout fond confondu. Et pour les manuscrits, c'est par fond et langue. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de débats là-dessus, et bon, on a pris ce parti. De toute façon, il fallait recoter, parce que malheureusement, c'était difficile de s'en passer, mais c'est le problème à ce qui a été assez complexe.
Est-ce que je peux reposer une question ou il y a quelqu'un ? Je voulais vous poser la question sur comment s'est fait la division, quel a été le choix qui a conduit à 1921 et 1851 pour l'entrée dans la réserve des ouvrages.
Voilà, ça aussi, ça a été objet de débat, parce qu'au départ, on avait décidé, on avait pensé 1811-1830, et finalement, c'est après l'ouverture ici, on a décidé de passer à 1850, étant donné que les collections sont très manipulées, et on a pensé que c'était plus raisonnable, et que, surtout qu'on a on a quand même des fonds, par exemple les fonds russes, etc., qui sont relativement fragiles. C'est sûr que c'est généreux. Et l'autre date, 1900, c'était la guerre de 14, grosso modo, qui nous a... Il y a eu, par exemple, la question des imprimés occidentaux d'Extrême-Orient, les impressions de Shanghai, etc., les impressions qui ont été faites au Japon, et pour lesquels ça correspondait à peu près à une période historique d'aller jusqu'aux années 1920. Et puis pour le Proche-Orient, ces périodes, on a la révolution en Turquie, on a la révolution. Enfin, ça correspond à un changement technique aussi. Sauf qu'il y a déjà des ouvrages plus récents, notamment ceux qui sont imprimés à Beyrouth, pour lesquels on aurait peut-être pu. C'est un choix, mais ça nous donne un certain confort pour la conservation, je crois. Enfin, j'espère répondre.
Oui, bonjour. Y a-t-il des programmes ou des projets de collaboration interbibliothèque à l'échelle internationale ou nationale, focalisant sur le problème de la numérisation des ouvrages avec papier acide qui risque de disparaître? Est-ce qu'il y a des programmes, en fait?
Jusqu'à présent, il n'y en a pas. Et je pense que ça serait, notamment dans le cas de ces imprimés arabes, il y a quelques numérisations qui ont été commencées, mais il n'y a jamais eu de programme vraiment systématique. Et c'est quelque chose qui est évoqué régulièrement dans les congrès de bibliothécaires, notamment notre association MELCOM, on en parle chaque année, mais finalement, on n'a jamais vraiment réussi à faire un programme international entre nous. J'espère que ça se fera, parce que c'est vraiment nécessaire.
L'UNESCO s'intéresse à ces questions.
Pour piloter, oui, mais bon.
Mais peut-être simplement pour préciser, ça suppose, pour qu'il y ait une numérisation, que les ouvrages soient encore, enfin les ouvrages ou les périodiques, soient encore en assez bon état. Oui. Ce qui, malheureusement, n'est pas toujours le cas. Puisqu'on peut avoir des ouvrages, là, ceux que vous avez aperçus en photo pendant l'exposé, qui sont extrêmement friables, et donc leur manipulation devient quasi impossible. Donc il y a quand même ce souci pour la numérisation à un moment d'avoir un ouvrage qui est dans un état encore correct pour être numérisé, même si évidemment ça serait l'idéal, mais pour un certain nombre de collections, il y a déjà plus grand-chose à faire en réalité.
Donc c'est vrai qu'un travail partagé, si on y arrivait, peut-être on arriverait à résoudre la question. C'est une urgence.
S'il n'y a plus de questions, on va peut-être clore la rencontre maintenant. Simplement pour vous préciser que notre prochaine manifestation aura lieu le 22 janvier, le mardi 22 janvier. Ça sera une conférence qui se placera dans le cycle de la contestation du pouvoir. C'est notre seconde conférence de ce cycle. Et donc, vous avez l'affiche ici. Ça s'appelle « Reconquérir l'espace public, les fondements d'engagement ». Et donc, elle réunira Sandra Laugier, qui est philosophe à l'Université Paris 1, et Alain Berthaud, qui est anthropologue à l'Université Paris 8 Saint-Denis. Voilà. Merci, bonne soirée.
Merci beaucoup.